Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va parler d'expatriation, on va parler de divorce après 50 ans, on va parler de connexion à soi, on va parler finalement de traverser la vie. Voilà, pleinement. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Nawel Bendefa, bonjour.
Oui, bonjour.
Un plaisir.
Bonjour, Yasmine.
Merci, un plaisir de t'avoir dans Femme d'aujourd'hui. Alors Nawel, quand je parcours ton parcours professionnel justement, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études, beaucoup de formations, mais surtout un changement de cap incroyable puisque tu es passée de l'hôtellerie au développement personnel.
Oui.
C'est vrai que je ne suis pas une professionnelle du sujet, je ne suis pas une professionnelle du développement personnel. Mais avec toutes ces années d'interviews, avec toutes ces années de rencontres et d'échanges, j'ai réussi finalement à me faire une petite idée, celle qu'on n'arrive jamais par hasard au développement personnel et on n'arrive jamais au développement personnel pour aider les autres directement. C'est toujours d'abord pour aller à la rencontre de soi. Est-ce que tu confirmes cette règle ou tu vas être l'exception ? Justement de la règle.
Oh, non, je te rassure totalement. C'est vraiment la rencontre de soi d'abord, de qui on est. Et puis c'est souvent une rencontre identitaire, donc une crise, un passage, une transition et une vision qui change ou une perception, plusieurs perceptions qui changent. Donc oui, je confirme ta règle, Yasmine.
Oui, c'est bien ça. Alors, fin des années 80, début des années 90, tu es dans l'hôtellerie, c'est ça ?
Oui.
Tu y travailles, tu pratiques ?
Pas tant que ça, puisque ça coïncidait avec la première guerre du Golfe.
Oui.
Et qui a eu, je parle d'il y a longtemps, hein. Je ne suis plus toute jeune, c'est bien de me rappeler les chiffres. Il y a eu la première crise, guerre du Golfe, fermeture de certains établissements. Donc vraiment, on était dans la crise au niveau du tourisme. Donc en fait, je me dirige vers la banque, vers le marketing bancaire.
Ouais.
Et c'est là où je travaille pendant quelques années, avant de reprendre, rester dans le marketing, mais dans un autre domaine qui est dans les cosmétiques de luxe. Et après, je suis repartie vers l'automobile.
Et tout ça au Maroc ou tu étais déjà en Belgique ?
Tout ça au Maroc.
Tout ça au Maroc.
Tout ça au Maroc.
Ouais.
Non, je suis née, élevée au Maroc. J'ai quitté le Maroc. J'avais déjà une quinzaine d'années de carrière derrière moi.
Ok. Et donc, tu es d'abord dans le marketing. Qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est un burn-out ? C'est une fatigue de l'écosystème ? C'est quoi ?
Non, pas du tout. C'est une histoire plutôt, une transition plutôt douce. Donc, je transite vers les ressources humaines dans une autre banque de la place, l'ancienne BMCE qui est maintenant Bank of Africa. Et je rencontre ce potentiel humain, je m'adapte, je fais mon master RH. Et puis, je rencontre le papa de ma fille qui lui me dit bien, si on veut fonder une famille, ça sera à l'étranger. Et donc, je fais une transition en le suivant pour une mobilité internationale. Et donc, le premier stop, c'est en Suisse.
Ok, d'accord.
Donc, et là, tout a chamboulé parce que je viens d'une carrière d'une quinzaine d'années dans l'entreprise, salariée, avec une carrière déjà bien tracée, là où je veux être, dans les ressources humaines. Mon ambition, c'était de devenir directrice des ressources humaines et d'introduire plus de coaching dans la pratique RH et dans la pratique du développement des compétences. Et je me retrouve sans travail en Suisse, à la recherche d'un travail, d'une nouvelle carrière, d'un nouveau souffle.
Alors justement, si on peut marquer une petite pause par rapport à ça, parce que beaucoup de femmes vivent se retrouvent dans ce cas de figure quand elles suivent un mari ailleurs. C'est que c'est souvent le mari qui a déjà un poste, une situation. Et donc oui, par amour, elles suivent. Mais une fois qu'elles suivent et qu'elles se retrouvent dans un pays étranger, elles se retrouvent aussi face à ce vide. Face à ce vide, alors qu'elles avaient une carrière, alors qu'elles avaient... Et à ce moment-là, est-ce que l'amour est suffisant quand on est finalement déraciné au plus profond de son quotidien ?
Ben, je veux dire, l'amour peut être suffisant, mais quel amour? Donc, si on compte que sur l'amour de l'autre, c'est pas suffisant. Donc, si on, c'est important de développer aussi l'amour de
ouais,
soi.
Oui.
Et être gentil avec soi-même parce qu'on n'arrête pas de s'en vouloir.
Pardon, mais quand je dis l'amour, dans ma question, en fait, j'étais un peu surprise quand tu dis quand on compte sur l'amour de l'autre. Oui, l'amour de l'autre est important aussi, bien sûr, mais l'amour qu'on a pour l'autre, parce que c'est ce qui fait que tu as suivi cet homme. C'est l'amour que tu avais pour
exactement.
Lui.
Oui. L'amour de l'autre, c'est bien, c'est important, c'est le fondement, c'est ce qui fait qu'on accepte de se déplacer. Maintenant, tout reste à construire après. Parce qu'on s'est connu dans un contexte.
Tout à fait.
Et qu'on va vivre dans un nouveau contexte dans lequel lui, il est à 100% occupé avec son travail. Il a le contrat. Donc, il a déjà l'activité. Et moi, j'ai une page blanche. Et tout à envisager, tout à créer dans cette page. C'est une opportunité. Enfin, maintenant que je le regarde avec du recul, mais vécu à l'instant T, au moment de la transition, c'était une torture. Donc, c'était vraiment un chamboulement identitaire. Qui suis-je? Alors que j'avais ma carrière, maintenant, je suis la femme de l'autre.
Tu l'as mal vécu à ce moment-là? Je suis la femme de l'autre?
Oui. Surtout dans les milieux d'expatriation, où c'était comme un jeu de langage qui circulait de manière... assez naturel, et moi, pour moi, c'était pas naturel. Je suis pas la femme de l'autre, je suis aussi une femme avec une carrière, avec des connaissances, avec des compétences. Donc, comment on... Et donc, d'ailleurs, la question qu'on me posait, c'était: que fait ton mari? Donc, c'est pas qu'est-ce que tu fais toi, mais même quand l'autre te rencontre, c'est que fait ton mari? Alors après, bien évidemment, on travaille sur les réponses, sur la perception des réponses. On voit que cette personne ne s'adresse pas forcément à moi, mais aussi à elle-même. Donc, et c'est là où j'ai développé aussi ma narration à fur et à mesure, et je l'ai enrichie, parce que j'ai créé aussi ce fil conducteur qui est à moi, qui est le fait de « je ne suis pas celle qui suit, mais aussi celle qui construit ».
Tu avais quel âge à ce moment-là, si je peux me permettre?
Quand j'ai quitté le Maroc, j'avais 33 ans.
Est-ce que tu penses que si tu avais vécu cette expérience peut-être 10 ans après, est-ce que tu l'aurais vécu différemment? Est-ce que tu aurais eu autant ce besoin d'exister par ton propre nom? Ou bien, finalement, cette décennie de la trentaine vers la quarantaine, en fait, c'est la décennie de l'accomplissement en quelque sorte? C'est comme si ce réservoir allait être rempli déjà. Et donc, en partant, en suivant après 40 ans, c'est pas que tu as laissé ta carrière derrière toi, mais c'est que tu t'es... Comme on dit, je n'ai plus rien à prouver à personne, en fait. Tu es partie pendant une décennie où tu avais tout à prouver, peut-être, et à toi, et aux autres.
Je dirais que c'est beaucoup plus complexe, parce qu'il y a vraiment la question identitaire de qui suis-je, même en tant que... Moi, j'étais bien enracinée dans mon contexte marocain. Et donc, le qui suis-je, ce n'est pas seulement l'épouse de l'autre, c'est qui suis-je en réalité. Je suis une Marocaine, j'étais dans des... Moi, quand j'ai fait ma première transition en Suisse, après, il y a eu les Philippines, après, il y a eu la Corée du Sud, il y a eu la Singapour. Et donc, dans ces pays-là, donc, c'était d'abord être dans l'anglais à 100%, c'était se construire des amis, un réseau, une tribu. En fait, quand j'existais au Maroc, j'étais avec ma tribu.
Oui.
Il n'y avait pas que l'homme dans ma vie, mon homme dans ma vie. Il y avait ma tribu, ma famille, mes oncles, tantes, sœurs, amis, collègues. Toute cette tribu a disparu. Donc, je pense qu'à 40 ans, je me serais quand même posé la même question, avec peut-être des nuances. Après, on se construit aussi par l'identité maternelle. Yasmine. Après, j'ai eu ma fille en 2008. Donc, il y a l'identité maternelle qui a rejoint mes questionnements sur les différentes autres identités. Donc, je pense qu'on, pour moi, mon expérience m'a amenée aux identités plurielles. On n'existe pas que par une seule identité. La femme de l'autre ou la maman d'un tel.
Ouais.
On existe par plusieurs autres identités.
Et ça, tu l'as senti chez les autres épouses?
Oui, je l'ai senti.
Ouais.
Même des femmes de 50 ans se posaient la question.
Se posaient la même question.
Qui suis-je? Qui suis-je dans cet environnement dans lequel je suis déracinée? Et par où commencer, au fait?
Tu penses que ce déracinement, il a accéléré cette quête de soi?
Oui, clairement. Ah oui, clairement. Parce que j'étais dans le confort de chez moi, dans mon pays. Je me mets dans un inconfort et une pression interculturelle. À l'époque, les codes sont très différents. Au Maroc, quand on déménage, il y a les voisins qui viennent, qui viennent vous voir.
Oui.
Et vous dire marhaba, et même vous amener des choses à manger ou vous inviter. Enfin, c'est comme ça qu'on s'installe au Maroc. Mais à l'étranger, en Suisse, bon, personne n'est venu me voir et personne même ne m'a dit bonjour. Mm. Et au fait, tout simplement, en Suisse, c'est le contraire. C'est vous qui allez voir les gens et qui leur dites hello, je suis votre nouveau voisin, nouvelle voisine. Nous sommes la famille numéro un tel. Et donc, déjà, rien que ce petit choc culturel, il m'a amené à réfléchir en profondeur sur qui suis-je dans ce contexte et qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre de moi et du contexte dans lequel je vis.
Alors, comment a démarré cette quête de soi, justement ?
Eh bien, alors, c'est marrant parce que je devais développer donc mon anglais et j'ai dit, je vais me regarder des films, regarder des séries. Et je tombe pile poil sur deux séries. C'était curieux parce que c'était des séries de l'époque. Mmh. Mais là, quand je regarde avec du recul, il n'y a pas de hasard. La première, c'était Lost.
OK.
C'est cet avion, tu sais, il y a la recherche sur une île déserte, et donc Lost. Et la deuxième série, c'était Desperate Housewives.
OK. La totale.
La totale. Donc, entre les deux, tu vois bien que j'étais vraiment en train de me poser des questions de manière inconsciente aussi dans le choix de ces séries qui m'ont trouvé. Voilà, exactement. Et donc, oui, j'ai entamé. D'abord, j'ai eu un coaching moi-même. Et dans le cadre de cette mobilité internationale, donc la société du papa de ma fille, ils ont mis un coach à mon service. Donc, cette coach m'a accompagnée dans mon développement, dans la mise à niveau de mon CV, de mes compétences, des langues. J'ai commencé à apprendre l'allemand parce que j'étais en Suisse germanique. Et puis j'ai trouvé un travail. Effectivement, j'ai travaillé. Et donc, comme tout vient ensemble, donc les énergies sont en mouvement, ben, je travaille, je tombe enceinte.
Ouais.
Je fais tout en même temps. Donc, oui, je m'intègre dans la société suisse à travers un travail dans une société multinationale dans laquelle voilà, je pratique plus l'anglais parce que l'allemand, c'était vraiment mes débuts. Et donc, tout de suite après, y a eu les Philippines. Donc, après, je me regardais, je me disais, mais. Est-ce que dans chaque pays, je vais devoir chercher un travail ?
Ouais.
Est-ce que ce n'est pas le moment pour moi de construire, revenir sur ce rêve que j'avais avant ? Et donc, au niveau du coaching, le coaching me paraissait plus naturel. Donc, ce n'était pas une transition, je dirais, une brutale ou burn-out, comme tu as dit au début, ou quoi que ce soit. C'était plutôt, j'y ai pensé quand j'étais au Maroc. Et même quand j'étais au Maroc, je disais, je serai coach quand je serai à la retraite. Ce serait un chouette métier à avoir. Et puis, l'idée, c'était juste de construire un peu un métier à avoir en même temps dans ma valise et un métier auquel je tiens et avec lequel je m'aligne. Donc, bien évidemment, le coaching de carrière était naturel.
Oui, parce que c'est comme si, en fait, il y avait aussi cette connexion à cette carrière que tu n'as pas vraiment eue.
Oui. Je l'ai eu, mais j'ai dû l'interrompre. Donc, comment faire cette transition tout en capitalisant sur ce que j'ai eu ? Et c'est ça, au fait. On n'est jamais les pages blanches, même si on le pense. On a un acquis. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée aux forces, aux compétences qui restent en nous, ces compétences transversales. Je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est science des forces et la psychologie positive, parce que ce qu'on a comme compétence, on peut l'élever. Rien que quand on dit on a de l'écoute. L'écoute, elle a plusieurs niveaux. Je peux écouter, voilà, ok. Je peux écouter profondément. Comme je peux écouter en n'étant pas intéressée parce que j'ai déjà la réponse en moi.
À ce moment-là, j'entends
donc, coaching,
simplement.
Voilà, j'entends tout simplement. Donc, le coaching nous amène à écouter avec la personne. Donc, et c'est ça, c'est un niveau d'écoute qui est exceptionnel et qu'on peut encore plus enrichir. Donc, tout ça, c'est avec beaucoup d'humilité parce qu'on n'a jamais tout appris. On a juste appris dans le contexte dans lequel on est.
OK. À ce moment-là, parce que quand tu dis le père de ma fille, c'est, j'ai l'impression que vous n'êtes plus ensemble, en fait.
Non.
Vous n'êtes plus ensemble. Pensez à une reconversion professionnelle alors qu'on refait sa vie aussi. Est-ce que ça, comment tu as géré ?
Alors, les choses sont différentes dans le temps. Donc, nous avons quand même vécu 16 ans ensemble en expatriation.
OK.
Donc, ça n'a fait que 3 ans, en fait, que nous sommes séparés et divorcés.
D'accord. Donc, une séparation après 50 ans, quand même.
Oui, c'est ça.
Oui.
Dans un nouveau pays, parce que je suis venue m'installer en Belgique.
En Belgique.
Après 50 ans, avec ma fille. Donc, alors que son papa, lui, il est resté en expatriation.
OK. Alors, ce divorce après 50 ans, on en parle très rarement. Ça... Parce que en fait, on a l'impression que ce sont les plus jeunes qui divorcent et on se dit oui, bon ben, à partir d'un certain âge, on se trouve son équilibre.
J'adore comment tu me suis, Yasmine. Tu me suis sur mon histoire et tu prends toutes les.
Mais oui,
c'est
ça mon job en fait. C'est pour ça que j'adore. C'est pour ça que j'adore ce podcast. Et en fait, là encore, on revient à ce que tu disais par rapport à l'écoute. C'est que j'entends pas, c'est vraiment j'écoute avec mes tripes, vraiment.
Oui,
et d'ailleurs, avant d'enregistrer, tu m'as dit est-ce qu'il y a un fil conducteur précis, etc. Je te mens tirant en te disant oui, je fonctionne par flair en fait. Et toutes mes interviews sont faites avec un flair, avec du flair, bon, à différents niveaux. Mais voilà, mais après, il y a cette écoute qui est extrêmement présente, extrêmement émotionnelle, cette connexion qui est profonde. Et voilà, donc j'essaie de ne pas rater une miette de ce qu'on me dit. Voilà, alors ce divorce après 50 ans.
Oui. Alors, divorce et déménagement. Donc, c'est...
Tu penses que ça se préparait depuis longtemps ?
Je ne pense pas, non. Je pense qu'on vit avec une... Enfin, quand je réfléchis maintenant avec du recul, qu'est-ce qui tient ? Qu'est-ce qui nous tient l'un à l'autre ? Il y a bien sûr cet amour. Puis après, il y a quand même cette envie d'être reconnu par l'autre.
Mmh.
Puis ce côté confiance et soutien et connexion. Peut-être qu'effectivement, au niveau connexion-communication, le travail en expatriation et surtout son travail à lui nécessitait beaucoup de déplacements. Donc j'ai fonctionné en roue libre pendant très longtemps. Et quand nous nous sommes retrouvés en Suisse pour la deuxième fois, parce qu'après Singapour, on est parti aux États-Unis et on est rentré en Suisse, et c'est en Suisse qu'on a vécu le Covid. Le fait qu'on soit ensemble, tous les deux, dans la même maison, à fonctionner ensemble, je pense que nous avons compris que nous n'avons pas le même fonctionnement. Nous avons basé notre couple sur un fonctionnement différent qui est celui de l'expatriation.
Mmh. Parce que vous n'avez, en réalité, jamais vraiment vécu ensemble.
On a vécu ensemble, mais jamais vraiment, par exemple, pris des décisions conjointes.
Mmh.
Lui, il avait plein de décisions à prendre dans son travail, donc quand il rentrait à la maison, il voulait se reposer des décisions. Donc moi, je prenais les décisions qui sont relatives à notre vie.
Ouais.
Je travaillais de la maison. Donc moi, j'ai toujours travaillé en ligne. J'ai toujours travaillé mon bureau à la maison. Alors, donc j'ai eu ce fonctionnement dès le début. Donc oui, je ne veux pas dire qu'il y a une chose sur laquelle je peux mettre la main en disant « voilà, c'est ça ». Je peux dire qu'il y a un cumul de choses et qui fait que, d'une manière classique, comme tu as dû le remarquer, le Covid a fait que où on renforce le couple ou on se sépare.
Ouais. Alors justement, de par ton expérience, parce que parfois on se dit oui bon là il est très occupé, on est en train de construire une carrière, on a des enfants à élever, on a des études à payer, etc. Bon, c'est pas grave si on passe pas beaucoup de temps ensemble, c'est pas grave si finalement on va se rattraper. Est-ce qu'on arrive finalement à se rattraper ou pas? Avec le temps, on va vieillir ensemble, on va se rattraper. Mais là, finalement, ce sont deux individus, deux êtres humains qui ont évolué en parallèle, mais pas ensemble, qui se retrouvent. Et ça, c'est pas toujours évident.
Ouais. Alors, tu as dit que j'ai beaucoup de diplômes et beaucoup de formations.
Ouais.
Une des formations qui m'a le plus aidée à comprendre le couple, c'est l'analyse systémique.
Mmh.
C'est le fait d'être dans le même système, mais en étant deux personnalités différentes.
Oui.
Si on est ensemble, si on le dit ensemble, c'est pas grave, on va se rattraper, on est ensemble encore. Mmh. Si chacun le dit dans sa tête, C'est pas évident parce que l'un peut penser on va se rattraper, l'autre peut penser je suis frustrée.
Oui.
Donc, si on est ensemble assis autour d'une table en train de discuter comme couple et dit « Oh là là, on passe par des périodes difficiles, les enfants sont encore jeunes, ils demandent beaucoup de notre attention, on est dans la logistique, dans les activités extrascolaires, etc. etc. » et on grandira ensemble, oui. Donc, le système va s'autoréguler aussi.
Oui.
Et le système reste uni. Il se nourrit de l'intérieur, même des contraintes internes qui existent. Et donc, voilà. Alors après, c'est vraiment la fracture de la communication qui peut faire que ce système ne fonctionne plus dans la même cohésion.
Oui. Oui. Donc, en fait, c'est là où... Oui, complètement. C'est là où on encourage la communication. Mais encore une fois, comment trouver la bonne fréquence ?
Oui, mais la communication n'est pas suffisante. Parce que c'est vrai qu'on est très centré sur ce mot. C'est d'abord la connexion. La connexion humaine... L'empathie, la compassion fait qu'on communique même sans parler.
Oui.
Je te comprends. Comme disent les Américains, I got your back.
Oui.
Je te soutiens. Là, c'est dur pour toi. Demain, ce sera dur pour moi.
Oui.
Il y a ce côté closeness, ce côté rapport, être proche l'un de l'autre.
Proche l'un de l'autre, oui.
Parce qu'on
sentir
peut
l'autre, en fait. Sentir
voilà,
émotionnellement
l'autre. Communiquer, ouais. Voilà, mais communiquer sans être arrivé à ce niveau émotionnel, de connexion émotionnelle, ben on est perdu parce qu'effectivement, on est dans le verbe faire et le verbe avoir. On va faire des enfants, on va faire une maison, on va avoir une maison, et on va avoir une épargne, et on va avoir... Et on n'est pas dans le verbe être. Et donc, c'est important de transcender un peu ces étapes et arriver au verbe être ensemble.
C'est compliqué de divorcer après 50 ans ?
Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est juste, il faut que ça ait du sens. C'est quoi le sens du divorce à 50 ans, à 30, à 20, c'est la même chose.
Oui.
Pourquoi on a été ensemble et pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'est plus ensemble ? Et savoir, parce que divorcer pour avoir des problèmes de divorce, ça ne vaut pas la peine.
Absolument, absolument.
Peut-être rester marié dans les problèmes du mariage.
Ouais.
Donc, je pense que la cinquantaine m'a rendue encore plus consciente du fait que, effectivement, je veux réussir mon divorce. Et avoir une relation équilibrée avec le papa de ma fille.
Tout à fait. Alors, tout à l'heure, au tout début de l'entretien, quand j'ai rappelé finalement tes années d'études, fin des années 80, début des années 90, tu as parlé de la guerre à l'eau.
Oui,
j'entends. Là, je te perds un peu. Et donc, à ce moment-là, tu as dit, je suis plus toute jeune, c'est bien de me rappeler finalement les années. Mais,
oui.
Mais en même temps... Le fait d'avoir divorcé il y a 3 ans seulement, le fait d'avoir continuellement fait des formations, d'avoir continuellement étudié, de t'être continuellement connecté à toi, à jongler finalement, à passer d'une carrière à une autre jusqu'à te retrouver, est-ce que ça t'a gardé, ça t'a préservé cette jeunesse intérieure dont on parle ?
Oui. La jeunesse intérieure. Alors, c'est la jeunesse d'esprit. D'abord, c'est pour moi... l'apprentissage. On continue à rester ouvert et apprendre. J'ai vécu dans des cultures différentes. Chaque culture m'a mis un miroir devant moi. Voilà, regarde-toi comme tu es aujourd'hui.
Nawal Bendefa, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci Yasmine.
C'était un plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.